Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Doro Dimantas. Salut à toi.
Salut Baptiste, salut auditeur de Radio DIWA.
Tu nous viens de Saillant, j'aime bien toujours dire les gens qui viennent de Saillant parce qu'il se passe des belles choses à Saillant.
Oui, à Saillant, c'est comme on le dit habituellement, on est un petit village de Gaulois qui résiste, toute la Gaule est prise, mais pas encore Saillant.
Et ça se passe bien de ton point de vue, cette nouvelle politique qui s'est mise en place, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi je pense que c'est très bien parce que c'est la démocratie et qu'est-ce que nous demandons toujours ? Nous demandons d'être consultés sur tout ce qui concerne nos vies et qu'on ne nous dirige pas de façon autoritaire. Nous sommes quand même des gens du 21e siècle. On estime que les citoyens sont assez adultes pour travailler, payer des impôts et tout. Là, on lui fait confiance. Mais lorsqu'il est question de prendre des décisions concernant sa vie, alors là, on l'infantilise. Nous, à Saillant, on dit non, on est des gens adultes. Nous allons décider, nous allons participer aux décisions qui concernent notre cité. Voilà, c'est simple.
Est-ce que tu as participé, du coup, à quelques commissions déjà ?
Oui. Pas parce qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps, mais à l'élaboration du programme, j'ai participé à des réunions préparatoires, à des commissions sur le tourisme, sur beaucoup de choses, quoi.
Cette parenthèse saillansonnaise maintenant fermée, Doro, tu viens aussi parce que quand même tu es un musicien qu'on commence à connaître, je crois, dans le DIWA, au saxophone.
Oui, ces dernières années, je me suis beaucoup impliqué dans la vie associative DIWAZ à travers mon activité avec Trajet Spectacle. Nous avons à cœur de donner des clés de compréhension pour entrer dans le monde de la culture. C'est pour ça que c'est ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce qui se passait à Trajet, c'est-à-dire le travail sur la littérature, le travail sur la musique, qu'est-ce que c'est tout ça. Et je continue ce travail parce que je suis un artiste, je suis en quête et je mène l'enquête. Ça me permet de me positionner tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour moi, faire juste un spectacle ou de l'art, tout simplement, ça n'a aucun sens pour moi, vu qu'il y a beaucoup de propositions artistiques et culturelles. Je me pose des questions aussi bêtes que à quoi sert la musique, à quoi sert l'art. Suivant la réponse qu'on apporte, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais si quelqu'un dit la musique, ça sert juste à s'éclater la tête, je dis voilà, c'est une vérité à lui. Quant à moi, je viens d'Afrique, je sais que la musique joue dans plusieurs occasions cérémonielles. Donc c'est l'aspect plutôt utilitaire, l'aspect plutôt fonctionnel des arts. Et je recherche toujours cette fonctionnalité. Par exemple, on va y venir tout à l'heure, mais il y a un lien entre la musique et la parole, par exemple. D'où vient la littérature ?
Cette pratique que tu as de l'art ou de questionner l'art passe par la pédagogie, par le faire avec d'autres gens en leur montrant quoi ? Tu parlais de clés, donner des clés, quel type de clés tu donnes ?
Un exemple, souvent quand les gens parlent de musique, ils disent « mais ouais, parle-nous du solfège, de l'harmonie ». Parce que nous sommes dans un monde relativiste, dans ce monde il n'y a rien qui est absolu. Je réponds que si tu parles de solfège et d'écrire, tu vas disqualifier tous les musiciens africains. Tu vas considérer, par exemple, que tous les autres peuples sont des nuls, parce qu'ils ne font pas du solfège.
Alors, c'est l'opposition entre la musique écrite et celle qui viendrait comme ça ?
Non, ce n'est pas l'opposition. La clé est justement dans la parole, dans le langage, parce que la musique, c'est un langage. C'est un langage, et tout comme tout langage, la conversation que nous avons en ce moment ne passe pas par l'écrit. Pourtant, tu te rends compte que nous nous exprimons parfaitement. Lorsque les enfants naissent, à 6 ans, ils ont un langage extrêmement élaboré. Avant qu'ils comprennent les règles de grammaire, il leur faut encore longtemps. Donc, si on transmet la musique, on le transmet d'abord sous forme de langage, avant de parler de solfège et ainsi de suite. Les solfèges et tout ça, ce ne sont que des signes et des supports. Point. C'est tout. La musique n'est pas là.
Et oui, et on fait quand même beaucoup cette erreur, notamment en France, de commencer par faire des heures et des heures de solfège avant même de toucher un piano, quoi.
Voilà.
En école de musique.
Oui, mais l'enseignement progresse. Progresse tout le temps. Les dernières fois que je suis allé en formation à l'école de jazz de Salon de Provence, je vois bien que les choses changent. Parce qu'il y a beaucoup un travail ethnographique, par exemple. On va faire écouter aux étudiants des musiques venant de tous les autres pays. Cette approche sensible revient maintenant dans la pédagogie.
Est-ce que tu pourrais nous refaire un petit peu ton parcours à toi ? Comment on en vient au saxophone, à faire du jazz même ?
Alors moi, je suis né dans la brousse, dans ce pays qu'on appelle le Tchad. Je suis né en 1954, dans un monde complètement agraire. Donc toute mon enfance a été bercée de toutes les choses traditionnelles, les contes, toutes les cérémonies, rituels et autres qui jalonnent les saisons. Tout cela accompagné de musique, de chant, de danse. Voilà ce qui a été mon enfance. Plus tard, les études vont m'amener loin, c'est-à-dire qu'elles vont m'amener à Grenoble où j'ai passé une maîtrise de biologie animale. Mais à ce moment-là, la guerre civile a éclaté au Tchad et ça m'a bloqué ici en France et ça m'a fait d'abord un choc et ça a fait un retour sur moi-même et toute la mémoire m'est revenue. Et donc ça a orienté ma vie différemment, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aborder la vie des arts, à travers les musiques, surtout de jazz, beaucoup de musiques de jazz qui m'ont rappelé, curieusement, l'Afrique. Par exemple, je parle de la musique de John Coltrane, de Sun Ra, toute cette pratique collective d'improvisation, toute cette recherche de trance, des vibrations sonores. J'ai redécouvert l'Afrique par là. Plus tard, je me mets à me former, donc, bon, tout en pratiquant, parce que j'étais déjà un jeune adulte. J'ai toujours fait tout en même temps. Mais ce travail m'a amené aussi à travailler avec le monde du récit, c'est-à-dire le monde du conte. Donc j'ai fait beaucoup de festivals de contes. Et je me suis rendu compte que pour un Africain, faire la musique, c'est parler. Par exemple, chez moi, quand un balafoniste joue, par exemple, il dit « king, 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 king ». Ça veut dire « j'ai soif, donne-moi à boire ». Mais dans le même temps, nous pensons que parler, c'est déjà faire la musique parce que la parole a un certain rythme, un certain souffle qui peut aussi apporter du mal-être ou du bien-être.
Oui, on trouve tout de suite les émotions, ouais, c'est sûr.
Voilà, et donc la clé est là, ne pas opposer ni la musique ni la voix, ça procède du même. Quand je joue du saxophone, c'est comme si je parlais, en fait.
En plus, les instruments avant soufflaient, en tout cas, c'est ce qui paraît le plus évident. Ouais.
Oui.
Et puis, c'est toujours la langue qui bouge, les lèvres.
Oui. Et puis, dans le même temps, moi, j'aime beaucoup, peut-être c'est lié à ma formation de chercheur, faire des investigations. Et que me dit l'enquête ? L'enquête me dit que la littérature, avant d'être écrite, était orale, même dans ses formes les plus abouties. C'est comme ça, par exemple, si on dit en Europe, à l'époque médiévale, les troubadours parlaient en octosyllabes. On a perdu une bonne partie de cette information. Essaye de parler en octosyllabes, tu vas voir que ce n'est pas évident.
Non, non, non. Donc, je ne vais pas me risquer.
Voilà. Mais ces troubadours ont légué des descendances. Pour moi, par exemple, quelqu'un comme Brassens, écoutez-le bien, il a repris cette tradition du troubadour et comme par hasard, il est né dans le sud-ouest de la France. Donc comme ça, on retrouve les traces de cette littérature qui était d'abord orale avant d'être écrite. L'Iliade et l'Odyssée, c'est pareil, c'était un récit oral.
Des légendes qu'on se racontait au coin du feu.
Voilà. Et donc, la littérature orale est la mère de toutes les littératures. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut plus opposer la littérature orale et la littérature écrite. Il faut simplement essayer de trouver les passerelles. Derrière les choses qui nous paraissent disparates, il y a toujours un fil derrière. Et c'est ce fil que nous cherchons.
Et avons-nous instantanément, dès que la littérature était bien orale, joué de la musique ?
Oui, c'est les modernes qui ont dissocié les choses. Parce que, pour reprendre l'exemple de l'Iliade et l'Odyssée, c'est en deux parties, hein, c'est un côté, c'est la mythologie. De l'autre, c'est le récit épique. Donc, c'est des récits oraux. Et ce poète qu'on appelle Homère, dont on ne sait pas s'il a réellement existé, mais enfin, il paraît qu'il était un poète aveugle qui a remis tout ça sous forme poétique et versifiée. Mais ce n'était toujours pas écrit. Plus tard, quelqu'un va reprendre ça et le fixer. Mais s'il est un poète musicien, ça veut dire que ce récit, il le disait en musique. Tout comme les troubadours ici disaient toujours leurs textes en musique. Si on demandait à un troubadour du Moyen-Âge s'il faisait la différence entre la musique et le récit, il trouverait la question étrange. Les anciens, pour eux, c'est évident que toutes ces choses allaient ensemble. C'est les modernes qui ont essayé de mettre maintenant la musique d'un côté, la parole de l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite.
À partir du moment où tu es allé en formation dans des écoles, est-ce que ça a été possible d'exprimer ce que tu es en train de nous dire là?
Ah non, mais moi, je suis allé à l'école pour acquérir un peu de technique, parce que vu que je vis en Occident, je dois acquérir un langage commun à tout le monde. C'est le minimum commun quand on vit en France, qu'on dit qu'on est musicien, savoir qu'est-ce que c'est un accord, savoir qu'est-ce que c'est une gamme majeure, tout ça. Bon, c'est le minimum à acquérir. Mais je me suis rendu compte que je connaissais des choses que mes professeurs ne savaient pas. Ils n'avaient même aucune idée de ce que moi je savais. Donc, mais je suis un bon élève parce qu'il est hors de question d'aller faire la leçon à mes professeurs. Mais pourquoi le jazz? Parce que le jazz, c'est cette musique qui est vraiment une musique hybride. Dire jazz, c'est dire une musique européenne jouée par un Africain. Là, c'est une définition précise.
Aux États-Unis, en plus. Hein,
voilà. Mais les Noirs qui arrivaient là-bas, ils arrivaient avec leur façon de faire. Et cette façon de faire, même s'ils ont perdu leurs coutumes vers leur dieu et tout ça, ils ont gardé absolument leur système sonore. C'est ce système sonore qui est vraiment africain et qui vont appliquer un répertoire qui, lui, était européen. Musique européenne jouée par des Africains.
Et instantanément, ils ont mis des grandes formules que nous, on a appelées de l'improvisation, alors qu'en fait, c'est simplement un autre langage.
Oui, oui. L'improvisation n'est pas quelque chose qui est spécifique au jazz. Rappelons-nous qu'à l'époque de la musique de Bach...
Oui, d'ailleurs, les jazzmen aiment beaucoup Bach. Hein.
Rappelons que du temps de Bach, 99% de la musique était improvisée. Moi, j'ai vu entre les yeux les partitions de cette musique avec des notations comme dans le jazz. Ça veut dire qu'on marquait juste un accord, mais on ne disait pas ce qu'il fallait jouer avec cet accord.
Voilà, il faut faire plein de...
C'est un langage.
Les petites tris, les petites...
C'est un langage. Ouais. La conversation que nous avons, je te rappelle, me paraît cohérente et pourtant, on ne l'a pas prévu.
Pas du tout.
Voilà, c'est un langage. Improviser, c'est parler un certain langage. Pour improviser, il faut avoir maîtrisé un langage. Improviser, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est parler littéralement, être inspiré sur le moment. C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que cette émission n'a pas été préparée.
Hein. On le précise hein, pour les auditeurs.
Oui.
Et donc, quand on est dans son instrument, prêt à faire un passage improvisé, c'est pareil, c'est parce qu'on maîtrise complètement ce que peut permettre... l'instrument et qu'on va pouvoir dire tout et n'importe quoi avec.
Voilà, c'est pas
avec
tout,
une cohérence.
C'est pas tout et n'importe quoi, c'est un langage. Par exemple, le langage, il me dit Ok, ce langage, je passe des heures chez moi à le faire. Et encore d'autres. L'alphabet français a 26 lettres. La nôtre, en France, comme musicien, elle a 12 lettres. Ces 12 lettres se combinent pour faire toutes sortes de musique qu'on entend. Point. En pratique musicale, nous faisons des exercices qui correspondent à des bouts de phrases pour apprendre la syntaxe. Parce qu'une fois qu'on a, y a du rythme, il y a le son, il y a, y a toutes ces choses qu'on rajoute en plus dans la musique.
Et si tu devais faire une opposition entre cette codification un peu occidentale de la musique, qui a donc voilà, mis des codes, mis des lettres, tiens, 12 lettres, qui a mis, je sais pas moi, des noms à des notes, et qui a même fait en sorte que les instruments jouent tous les mêmes notes pour pouvoir faire des grands concerts, grands orchestres, quelle différence il y aurait avec la musique africaine, je pense aussi avec la musique indienne, qui va partir dans des harmonies plus développées, avec des notes auxquelles on n'a pas pensé, des cordes qui ont été inventées.
Mais tu as bien remarqué que c'est Bach qui était le père de la musique moderne, qui a tempéré le clavier. Avant Bach, avant que le clavier soit tempéré, la musique était très proche de la musique africaine et autres. Et même la musique du Moyen-Âge carrément ressemblait beaucoup à ce qu'on peut entendre maintenant comme musique orientale et tout. Hein. Parce que si tu vois bien les instruments de la musique...
La vielle à roue, tout ça.
La vielle à roue, les mandolines qu'on appelle aussi des luths et tout. On retrouve tous ces instruments dans le Maghreb. Donc l'Occident a évolué. Mais dans cette évolution, cette musique que je décrivais tout à l'heure comme une musique tempérée, elle-même va évoluer en Occident parce que ça fait depuis quasiment la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, que les grands créateurs de la musique savante européenne ont petit à petit abandonné ce système. Je cite ici Edgar Varèse, déjà éloigné petit à petit de ce système dit tempéré. Et les ordinateurs maintenant apportent encore d'autres instruments qui permettent de ne plus être en train de faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc oui, là, nous nous exprimons dans un idiome qui date du 18e siècle en fait. Oui. Alors que nous sommes au 21e siècle, c'est bizarre quand même.
C'est vrai, c'est bizarre. Autre chose sur le jazz, c'est un ami à moi qui me dit souvent ça, parce qu'il est complètement hermétique au son jazz d'une manière générale, parce qu'il dit « Lorsque j'écoute du jazz, j'ai l'impression d'entendre chaque instrument tout seul. Le batteur fait quelque chose ?» le contrebassiste envoie une autre ligne sur une rythmique qui parfois peuvent s'accorder. Le pianiste est en train d'improviser. Le saxophone fait complètement autre chose. Tout ça ensemble fait qu'il n'a pas l'impression d'entendre quelque chose d'homogène.
Non,
qu'en penses-tu ?
C'est tout à fait homogène. Mais nous considérons que 4 musiciens doivent faire plus de musique que 4 musiciens, en fait. 4 musiciens doivent faire la musique comme s'ils étaient 10. C'est simplement un partage de l'espace sonore, de l'espace rythmique.
Pourquoi ça ?
Ce serait un peu comme si, dans une pièce de théâtre, tous les comédiens jouaient le même rôle. Se singeaient les uns les autres. Or, la musique n'est ni plus ni moins qu'une organisation dramatique du son. Quand on a vu une pièce de théâtre, si on voit bien le plateau, les rôles sont distribués. Sur le plateau, il peut se passer plein de choses, mais c'est le metteur en scène qui voit l'ensemble. Il y a autre chose qui est spécifique au jazz, c'est que la notion de l'œuvre, la notion de chef d'orchestre, il y a une implication quand même, je dirais, un tout petit peu idéologique et politique, parce que quand on est dans un groupe de jazz, nous considérons que chacun est créateur. Même s'il est interprète. La chose n'est pas pareille que dans la musique classique où le compositeur est Dieu le Père, le chef d'orchestre c'est l'archange Gabriel, le premier violon, c'est Saint-Pierre, jusqu'à la personne qui...
Mais un coup de triangle.
ou qui passe la serpillière. Donc ici, les choses sont extrêmement pyramidales. En jazz, non. Non. Chaque chose que quelqu'un fait, l'assume. Et on lui accorde le statut de créateur tout de suite. C'est la différence.
Et puis aussi, on peut reprendre éternellement ce qu'on a appelé des standards et les refaire 150 000 fois avec à chaque fois une émotion différente.
Oui, les standards qui sont des choses très, très, très difficiles parce que ça a été joué par des tas et des tas et des tas de gens demandent à ce qu'on les réactualise. Mais pour les réactualiser, je pense qu'il faut ressentir une émotion particulière. Sinon, il ne faut pas les jouer. Par exemple, moi, j'aime beaucoup jouer les feuilles mortes. Tous les jours, je joue les feuilles mortes. On pourra les jouer. Les feuilles mortes qui sont en fait un poème de Prévert, un très beau poème épique de Prévert.
Et d'ailleurs, il écrivait en prose, pas oui. Trop en rime, lui, justement.
Voilà. L'association avec Cosma, qui est le musicien, est formidable. Et nous avons des interprètes extraordinaires comme Miles Davis, comme Juliette Gréco, comme le papé, celui qui chantait à bicyclette, comment il s'appelle ?
Yves Montand.
Yves Montand. On a ces trois interprétations qui sont extraordinaires. Et qui, ça veut dire qu'ils ont bien ressenti ce poème. Donc, on doit ressentir quelque chose avant même de voir les aspects techniques de l'exécution. Et comme ça, même si on fait quelque chose qui est modeste, l'auditeur le sent et le ressent juste.
Voilà. Je suis donc toujours avec Doro. Nous parlons de jazz, nous parlons de ton parcours, mais aussi quand même, et c'est pour ça que tu es venu à la radio, tu es venu avec un petit post-it. Pourquoi donc ?
Oui, je suis venu là parce que le samedi prochain, je vais participer. On m'a donné une carte blanche dans un lieu collectif qui s'appelle le Complexe du Crabe. Le Complexe du Crabe, c'est à Bonlieu-sur-Roubion, près de Montélimar. Et là, ils fêtent leur anniversaire sur 2 jours.
Donc samedi 13, dimanche 14.
Dimanche 14. Moi, ils m'ont dit, ben, tu as carte libre pour le samedi. Donc je vais proposer le récit que je développe actuellement qui s'appelle Jazz et Vin de Palme, qui est un récit musical tiré d'une nouvelle fabuleuse d'un écrivain congolais qui s'appelle Emmanuel Dongala.
Je crois que tu étais déjà venu le présenter une fois à la radio, voilà. Mais on va le rappeler quand même, parce que oui. C'est toujours bien.
Oui, et c'est un récit qui me va très très bien, parce qu'il me permet d'assouvir toutes mes envies. Parce que j'aime la littérature, parce que cette littérature francophone dépasse le cadre hexagonal. Nous sommes plus de 200 millions de locuteurs de français. Le français traverse plusieurs cultures. En Afrique noire même, aux Antilles, à Haïti, au Québec, notre communauté donc francophone est grande. Et dans cette communauté, surtout s'agissant des Africains, nous avons encore nos Victor Hugo, nous avons nos Zola, parce que j'estime que les écrivains ont participé aussi, bien que les partis politiques, dans l'évolution des mentalités. C'est pour ça que je fais ces spectacles, pour donner envie, si quelqu'un a envie d'aller lire ces auteurs-là, voilà, j'estime que j'ai atteint mon but. Et ces auteurs sont extraordinaires parce que ce récit qui s'appelle Jazz et Vin de Palme est un récit contemporain. D'habitude, je raconte aussi des contes traditionnels d'Afrique, les mythes, les contes animaliers qu'on sait, et donc j'improvise pas mal. Mais sur Jazz et Vin de Palme, quand j'ai lu le récit, le style est si super que je me dis, je ne vais pas gâcher ça. Mais simplement, je vais le restituer comme c'est écrit. Mais le public ne doit pas se douter que ça a été quelque chose qui est écrit.
Quand on entend jazz, est-ce que c'est parce qu'il a même poussé jusqu'au bout à écrire une partition de jazz, peut-être ? À écrire des morceaux ou des thèmes de départ ?
Non, pas du tout, mais c'est le récit est un peu autobiographique. Là, il ne le dit pas, mais il y a une clé autobiographique, c'est que Dongala, à la fin des années 60, vers les années 70, il était aux États-Unis en fait. Et là, il a rencontré tous les grands musiciens noirs, John Coltrane, Son Ra, Miles Davis et tout ça. Et c'est une nouvelle, hein, en forme de fable. Comme toute fable, il y a une moralité. C'est, quand il arrive des malheurs sur les êtres humains, par exemple, en ce moment, nous sommes menacés par les catastrophes écologiques, nous sommes menacés par la finance, nous sommes menacés par toutes sortes de choses qui concernent toute l'humanité, en fait. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons toujours à l'ONU. Et puis, nous proposons des solutions qui ne sont pas des solutions. Et puis, comme personne ne trouve de solution, eh bien, on s'accuse les uns les autres en disant les Russes disent que c'est la faute aux Américains, les Américains disent que c'est la faute aux Français, ainsi de suite.
Et on fait la guerre.
Voilà. Mais dans ce récit-là, la catastrophe, c'est l'invasion des extraterrestres qui ont commencé à envahir la Terre en commençant par le Congo. Et comme d'habitude, on se réunit à l'ONU, les Américains, ils proposent de larguer des bombes, les Russes de faire défiler des tanks, les Chinois de faire défiler. Et puis, tout d'un coup, ils n'arrivent toujours pas à trouver la solution. Et c'est le délégué du Kenya qui a dit que, mais comme le voulait la tradition, il fallait inviter ces extraterrestres sous l'arbre à palabre, leur faire déguster du vin de palme. Et comme ça, tranquillement, on les étudierait, on verrait leur réaction et tout, tranquillement. Et
c'est alcoolisé, le vin de palme, bien sûr.
Oui. Voilà. Et donc, c'est la proposition qui a été retenue. Donc, suite à ça, il y a eu des études scientifiques qui ont montré que le vin de palme, ça, c'est les Français dans le Beaujolais qui ont démontré que le vin de palme mettait les extraterrestres dans un esprit très réceptif et que la musique de John Coltrane, leur effet a été dit sur eux à Katmandou, au Népal. Là, on a prouvé que la musique de John Coltrane les met en transe. Et les Russes et les Américains se sont associés pour étudier l'effet de la musique de Son Ra sur les extraterrestres. Et ça a été prouvé que si on pousse la musique au maximum, là, ils explosent et ils disparaissent. Et donc, on a trouvé ces solutions. Et quand tout a été prêt, qu'on a fait fabriquer plein de vins de palme partout, qu'on a dupliqué des disques de John Coltrane, qu'on a fait répéter l'orchestre de Son Ra, on a fait une grosse fête et on a commencé à les flatter. On les a flattés en leur disant qu'ils étaient les meilleurs, que sans eux, nous, les humains, on ne serait pas ce qu'on était devenus aujourd'hui. Et puis, en fin de compte, ils commencent à boire et on a commencé à appliquer toutes ces choses. Ils boivent d'abord du vin de palme. Ensuite, quand la musique de John Coltrane arrive, tout le monde est en transe. Et là, quand c'est au paroxysme, on envoie l'orchestre cosmique de Son Ra. Et quand cet orchestre atteint la vitesse de la lumière, tout ce qui n'est pas humain disparaît et s'envole. Et l'histoire dit que c'est depuis ce temps-là que le meilleur buveur de vin de palme chaque année est nommé secrétaire général de l'ONU. Et que c'est depuis ce temps-là aussi que Son Ra fut le premier homme noir et musicien de jazz à être nommé président des États-Unis, etc., etc. Et je finis le récit, tout le monde chante, et normalement, si on s'embrasse, on fait n'importe quoi, on manifeste notre joie, voilà. Et c'est ce récit que j'ai fait accompagné d'improvisations, de saxophones aquatiques, de bolongs, de chants.
C'est quoi un saxophone aquatique?
Un saxophone aquatique, c'est quand je prends une calebasse d'eau, je trempe le bout de mon soprano dedans pour jouer avec l'eau et tirer des effets les plus bizarres possibles qui illustrent un peu l'arrivée des extraterrestres, en fait.
Ah. Ouais. Et d'autres instruments, t'as dit encore?
Donc, je joue du saxophone soprano et du saxophone ténor. Mais je joue aussi du bolong. Le bolong, c'est une harpe à trois cordes qui sonne un peu comme une basse et qui me sert à chanter et à appuyer ma voix quand je raconte. Voilà, c'est ça les instruments que j'utilise.
Jazz et vin de palme par Doro Di Manta le samedi 13. Rappelle-nous où
Bonlieu
sur Roubion.
Oui, et Baptiste, si tu permets,
oui.
je déroule rapidement parce qu'il n'y a pas que moi. Ça commence donc le 13, le samedi. Moi, je fais une causerie sur le jazz et le vin de palme à 14h. Je joue à 18h. Je joue le spectacle à 18h. Et en soirée, c'est-à-dire qu'à partir de 19h30, Il y a un groupe de musique sénégalaise qui vient pour finir la soirée. Mais entre-temps, il y a encore des animations pour les enfants. Il y a un atelier de sérigraphie. Et puis, il y a un théâtre. Et puis, un atelier de céramique aussi. Ça, c'est vraiment le samedi. Et puis, il y a d'autres, surtout le dimanche. Comment on appelle ça? Ça s'appelle le Carlo Écarlate. C'est un lieu qui recueille les enfants. Ils peuvent lire des bandes dessinées ou s'amuser à dessiner, à crayonner et tout ça. Et il y a aussi deux choses importantes. Il y a du cirque et de la musique. Alors, pour ceux que ça intéresse, il faut aller sur le site de... Ça s'appelle Le Complexe du Crabe. Voilà. Là, je n'ai pas tout en tête.
Mais je vais mettre le lien sur la page.
Oui, je convie donc tout le monde à venir déguster ce récit.
Est-ce qu'on déguste du vin de palme?
Eh bien, j'ai essayé une fois, parce que j'ai joué ce spectacle plusieurs fois à Paris. Et une fois, je voulais quand même que mon public il goûte au vin de palme, mais je me suis rendu compte que le vin de palme qui est vendu à Château Rouge n'est pas de bonne qualité. Bon, en fait, comme toutes les choses qui sont tropicales, il faut les déguster, en fait, sur place.
Sur place, oui.
Sur place, oui. Mais on peut boire du vin de France en s'imaginant dans sa tête que c'est du vin de palme.
et toi, tu l'as goûté, c'est bon?
Oui, oui, oui.
Là-bas?
Oui, oui, oui. C'est très bon. Il se trouve aussi que le vin de palme est un antipyrétique. C'est-à-dire quand on a des fièvres, en fait. Par exemple, quand on a le paludisme et qu'on est loin d'un centre hospitalier, il faut en boire, en boire, en boire, en boire, en boire, en boire. Jusqu'à parce que ce qui est dangereux dans le paludisme, c'est la fièvre. Et donc, le vin de palme fait baisser la fièvre, en fait.
C'est fort?
Ah ben, comme tout ce qui est traditionnel, on n'a pas encore des process pour stopper la fermentation. Donc,
ah oui.
La version qu'on boit le matin est très douce. Et puis, la version qu'on boit le soir, ben, le degré d'alcool monte tout le long de la journée. Et moi, je suis sûr aussi que ce vin-là, il continue à fermenter dans l'estomac. Donc, il faut faire gaffe. Ça se boit très bien, ça a un très bon goût, un peu comme la mort subite. Donc, quand on boit, on ne se rend pas compte que c'est fort, en fait. C'est doux, c'est un peu sucré. Et le moment où on tombe, on ne se rend pas compte.
Donc, à boire avec modération, c'est la formule consacrée. Est-ce que Doro, on a tout dit? Certainement pas tout, parce qu'au moment, on se reverra.
Ouais.
Mais sur cet événement.
Oh, mais il faut venir découvrir les lieux. Parce que c'est vraiment toutes les choses dont nous parlons, l'économie solidaire, la solidarité. J'ai l'impression que les gens du complexe du Crabe appliquent ça de façon la plus courante. Moi, je suis allé dans des tas de réunions où des gens parlent de solidarité, de l'économie solidaire, mais j'ai l'impression que l'économie solidaire, pour certains, est un plus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accessoire. Par exemple, moi, je peux te dire que bon, maintenant, j'ai mon salaire hein, qui est béton. Je peux me permettre de faire de l'économie solidaire. Ces jeunes-là, non. Ils viennent tous des minima sociaux. Ils sont retroussés les manches et ils font fonctionner vraiment les choses de façon très démocratique. Et en plus, ils sont compétents. C'est pour ça que je me sens en phase avec le complexe du Crabe. Et je vous invite, si vous avez du temps, de temps en temps, à passer ne serait-ce que boire un café, un verre et tout ça. Parce qu'ils font un travail merveilleux, un travail de solidarité qui est incroyable.
Merci Doro pour cette présentation.
Merci
du
à
complexe
vous.
Du Crabe.
Merci à toi Baptiste. Tout à l'heure, je vais peut-être jouer tout doucement Les Feuilles Mortes.
Ah oui,
et voilà.
J'allais pas oublier ça.
Ouais,
eh ben, à bientôt, à la prochaine sur la radio. Hein.
À bientôt et je reviendrai, hein, parce qu'on aura beaucoup de choses à se dire.
Oui.
Merci.